Bonjour, je vais d'abord commencer par vous poser quelques petites questions. Que pensez-vous de la société dans laquelle nous vivons? Voilà. Êtes-vous plutôt heureux de son fonctionnement ou êtes-vous plutôt d'accord avec certains mouvements contestataires de certaines couleurs? Est-ce que vous attendez toujours quelque chose de cette société? Avez-vous soif d'autres choses à vivre? Quelle est la société dont vous rêveriez? Quels principes aurait-elle? Quel fonctionnement? Que feriez-vous si vous étiez président? ce serait pas simple en tout cas. Qu'est-ce que vous améliorez, changeriez? Ce matin, nous allons lire un passage d'Éphésiens et nous allons découvrir et nous émerveiller de cette nouvelle société, du nouveau projet, de la nouvelle communauté qu'a voulu et que Dieu a créé il y a maintenant bientôt 2000 ans. Alors je vous propose de lire ensemble le passage situé dans Éphésiens 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans leur corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il y a notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Donc pour mieux comprendre ce texte, nous nous arrêterons sur le passage que nous avons lu en trois parties. Donc dans la première partie, en nous rappelant de la séparation entre les hommes et Dieu. La deuxième explique comment Jésus-Christ a réconcilié les hommes entre eux et avec Dieu. Et la troisième, nous nous réjouissons du privilège et des responsabilités que nous avons en tant qu'hommes et femmes réconciliés avec Dieu. Donc dans la première partie, des versets 11 à 12, Paul se focalise plus précisément sur les païens, donc c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas juives. Il va leur rappeler leur position et leur relation vis-à-vis du peuple juif et vis-à-vis de Dieu avant la venue de Jésus-Christ. Donc dans le début du chapitre, Paul a déjà rappelé à l'humanité dans son ensemble, juifs et non-juifs, que sans l'œuvre de Jésus-Christ, nous étions tous éloignés de Dieu et condamnés à la colère de Dieu à cause de notre péché. Donc, juifs et non-juifs avaient besoin de la grâce de Dieu, comme chacun d'entre nous. Mais là, au verset 11 et 12, Paul va plutôt rappeler aux païens qu'ils n'avaient pas les mêmes privilèges que les juifs, et il leur rappelle leur séparation, leur distance avec les juifs, et leur séparation et leur distance avec Dieu. Donc, premièrement, nous voyons dans le texte que les Juifs traitaient les païens d'incirconcis, donc ce n'était pas très sympathique, et on peut penser qu'il y avait des difficultés à être unis dans les églises entre Juifs et païens. À l'époque du Nouveau, d'où cela venait-il? Donc à l'époque du Nouveau Testament, cela faisait des centaines d'années que l'animosité entre les Juifs et les païens perdurait. Il y avait une séparation des Juifs envers les païens, il n'y avait pas ou très peu de contacts. Donc il est difficile aujourd'hui de nous représenter le fossé, la distance et même la haine, comme le dit le texte, qu'il y avait entre certains juifs et les païens à l'époque. Donc d'après le commentaire de John MacArthur, il semblerait que certains juifs en arrivaient à croire que Dieu avait créé les païens comme combustible pour l'enfer. En tout cas, beaucoup croyaient que Dieu aimait Israël et haïssait tous les autres peuples. Il a aussi écrit que certaines juives refusaient d'aider une non-juive lors de son accouchement, parce qu'en le faisant, elles auraient aidé la venue au monde d'un autre païen méprisable. Lorsqu'un juif ou une jeune juive mariée à un païen, leur famille célébrait leurs obsèques pour symboliser que leur enfant était mort en ce qui concerne la religion, la race et la famille. Donc, par crainte de contamination, beaucoup de juifs n'entraient pas dans la maison d'un païen et ne le recevaient pas chez eux. C'est difficile et prégnant de grandir avec cette image négative concernant les personnes d'autres communautés. Certains aujourd'hui diront que quand on voit la situation du peuple juif tout au long de l'histoire, cela peut se comprendre. Ils ont constamment subi l'oppression et la persécution de la part des non-juifs, qui considéraient souvent les juifs comme des esclaves à exploiter, tout comme à notre époque, sous les nazis et aujourd'hui avec la remontée de l'antisémitisme. Les juifs ont souvent été traités comme des ennemis. Quelle tristesse de voir certains de ces préjugés encore existants aujourd'hui entre juifs et non-juifs. Et nous avons en tant qu'Église une responsabilité pour lutter contre les préjugés concernant les juifs, mais concernant également toute autre communauté. Dieu aime les juifs et Dieu aime toutes les autres communautés. Les païens étaient donc séparés des juifs, mais également séparés de Dieu. Donc Paul cite 5 des avantages que les païens avaient, contrairement aux juifs. Donc le premier, vous étiez sans Messie. Donc car le Messie est d'abord le roi d'Israël, vous venez libérer le peuple juif de l'esclavage. Le deuxième des avantages, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Donc les païens étaient tenus à l'écart des avantages sociaux et spirituels de la nation d'Israël. Donc Dieu avait fait de son peuple élu une théocratie, une nation dont il était le roi et le seigneur. Le troisième des avantages pour les païens, il est écrit « Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse. » Donc Dieu avait fait des alliances avec Israël, et ces alliances reposaient donc sur la promesse fondatrice faite à Abraham en Genèse 12 « Je ferai de toi une grande nation et tu seras une source de bénédiction. » « Je bénirai ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. » Le quatrième des avantages pour les païens, donc ils étaient sans espérance. Donc c'est à Israël qu'avait été promis le rétablissement de toutes choses. Et le cinquième des avantages, ils étaient sans Dieu dans le monde. Donc ils n'avaient pas de relation avec le seul vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Donc c'est la situation très défavorable dans laquelle les païens vivaient à l'époque avant la venue du Christ. Privés de Messie, des alliances, d'espérance et de Dieu lui-même. Ils étaient séparés des Juifs et séparés de Dieu. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est ce que Dieu voulait? C'est-à-dire bénir les Juifs et créer une inimitié, une séparation entre Juifs et le reste du monde? Pas du tout. Dieu, pour se révéler à tous, a souverainement élu les Juifs comme son peuple particulier. Il les a choisis pour leur donner une bénédiction particulière, mais aussi pour qu'ils soient un canal pour diriger cette bénédiction à tous les autres peuples. Donc dès le début, comme nous l'avons lu, Dieu a dit que par Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies. Donc Israël devait être le canal dans lequel la connaissance de Dieu serait offerte au monde entier. C'est pour cela que Dieu a voulu qu'Israël soit différent et qu'il n'y ait pas d'amalgame avec les autres peuples. Donc il voulait que le monde voie que ce peuple vivait d'une autre manière bonne, n'agissait pas de la même manière que les autres peuples et que du coup les autres peuples se tournent vers Dieu. Donc le peuple devait être un instrument de témoignage, de bénédiction pour tout le monde. Mais pour Israël, cela est bien souvent devenu une cause d'orgueil, de glorification personnelle et de séparation avec les païens, comme nous l'avons vu. Donc, le prophète Jonas offre un bon exemple de l'attitude juive envers les païens. Donc, lorsque Dieu l'a appelé pour aller à Ninive, le prophète a fui dans l'autre direction. Après qu'il ait finalement obéi à Dieu et qu'il ait vu la ville entière se repentir, donc il est écrit que cela déplut fort à Jonas et qu'il fut irrité. Parce que Dieu, dans sa grâce et sa compassion, avait épargné les païens de Ninive, tout comme Jonas s'attendait à ce qu'il le fasse. Donc, à l'exemple de Jonas, la plupart des Juifs ne partageaient pas ou ne voulaient pas partager leur Dieu de grâce avec qui que ce soit. Avant la venue de Christ, les païens étaient donc séparés des Juifs et séparés de Dieu, comme aujourd'hui les hommes peuvent être séparés entre eux et séparés d'avec Dieu. Mais ce n'était pas le plan de Dieu pour l'éternité, et nous allons voir dans la seconde partie comment Jésus-Christ a remédié à cette séparation et comment il est venu nous réconcilier avec Dieu et avec les Juifs et toutes les communautés ensemble. Donc, au verset 13 à 18, nous voyons que par amour pour nous, Dieu a agi. Donc, comment par Jésus-Christ et par le sang de Christ, verset 13. Le sang de Christ fait allusion à la mort de Jésus-Christ sur la croix, à son sacrifice qui permet la réconciliation avec Dieu le Père. Et le Christ Jésus veut dire que c'est par l'union avec Christ qui vient vivre en nous que nous pouvons être rapprochés de Dieu. Donc cela, c'est la suite logique. D'abord, Jésus-Christ vient sur la terre pour se sacrifier, pour mourir à notre place, pour nos péchés, pour faire couler son sang. Puis il est possible d'accepter le sacrifice de Jésus-Christ intérieurement pour qu'il vienne vivre en nous d'une manière personnelle et intime. Puis au verset 14 à 18, nous voyons les conséquences du sacrifice de Jésus à la croix. Donc au verset 14, il a détruit le mur de séparation. Donc le mur de séparation faisait certainement allusion autant au mur symbolique qui séparait le païen d'avec Dieu, mais peut-être également au mur de séparation du temple juif qui séparait les juifs des païens. Car il y avait une séparation qui existait entre le parvis des non-juifs et le reste du temple. Entre ce parvis et celui réservé aux Juifs, il y avait des écriteaux d'interdiction pour les païens de s'approcher plus du temple sous peine de mort. Donc nous pouvons encore voir justement par la présence d'une place pour les non-juifs que Dieu avait prévu un parvis pour que les Juifs puissent partager le message de Dieu aux païens, pour qu'ils puissent le connaître. Donc c'était un endroit pour évangéliser, pour les amener près du temple, pour les amener à lui. Et Jésus-Christ a venu casser ce mur de séparation pour qu'il n'y ait plus de distinction et de barrière à l'adorer ensemble entre toutes personnes de la terre. Au verset 15, Jésus a également rendu sans effet la loi dans leurs commandements et dans leurs règles, donc, ou alors certaines versions écrites dans leurs prescriptions. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Les termes montrent clairement qu'il n'est pas question de la loi morale, sa loi morale qui reflète la sainteté de Dieu, les 10 commandements, la loi inscrite dans les cœurs. Mais cela veut dire qu'il a aboli les règles qui distinguaient et séparaient les juifs des non-juifs. Donc avant Christ, par exemple, il y avait tellement de règles alimentaires qu'il était quasiment impossible de manger ensemble. Il y avait aussi des restrictions de cérémonielles, donc c'était aussi impossible de vivre un culte aussi ensemble. Et Jésus-Christ a permis qu'aujourd'hui, nous puissions manger ensemble, adorer ensemble, dans la même maison, dans le même lieu, quel qu'il soit. Donc Christ a anéanti toutes les distinctions et les exigences qui nous séparaient. Et même plus, verset 15 toujours, il a créé un homme nouveau en Jésus. Donc il n'a pas voulu juste rapprocher deux communautés différentes, juifs et païens, mais il a voulu créer une nouvelle créature, différente des créatures jusqu'ici. Donc, alors que la nature des hommes était mauvaise, pécheresse et centrée sur eux, eh bien Dieu a permis que celui qui croit en Jésus-Christ reçoive une nouvelle nature par le Saint-Esprit qui est envoyé aux croyants. Alors que ce n'était pas possible il y a 2000 ans, avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, aujourd'hui le verset nous dit que nous avons accès directement auprès du Père, les uns et les autres, par le même Esprit. Dieu vit dans le croyant par le Saint-Esprit, et tous les croyants sont unis en Dieu par le Saint-Esprit. C'est en cela que le païen et le juif peuvent être réconciliés et unis entre eux, par et dans le même Esprit de Dieu. Nous pouvons nous poser plusieurs questions pour nous-mêmes. Est-ce que je profite pleinement de l'accès au Père, d'une façon directe, grâce à Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a toujours des murs de séparation entre certaines personnes et moi-même? En certaines cultures et moi-même, en certaines classes sociales et moi-même. Quels sont les espaces, les parvis que Dieu met à ma disposition pour témoigner de l'Évangile autour de moi, aux personnes qui ne le connaissent pas? Suis-je un canal de bénédiction pour ceux qui ne le connaissent pas, ou est-ce que je veux garder ce pardon et ce privilège seulement pour moi? Pour nous aujourd'hui, juifs ou païens, Christ a réconcilié les deux peuples ensemble et avec lui. Les deux peuples ensemble et avec lui en annonçant la paix par son sang. Et il a créé une nouvelle humanité, un nouveau groupe, une nouvelle communauté. Paul va illustrer ce miracle de l'unité du corps par trois images, par trois illustrations. Et c'est ce que nous allons voir dans notre troisième partie du verset 19 à 22. Donc ces trois images, ces trois privilèges sont le fait de devenir des concitoyens des saints, d'entrer dans la famille de Dieu et de représenter le temple de Dieu. Donc le premier privilège est que nous devenons concitoyens des saints. Alors que nous étions éloignés du royaume de Dieu, du peuple de Dieu, celui qui confie sa vie à Christ fait maintenant partie du peuple de Dieu. Donc en Jésus-Christ, tous les croyants de toutes les époques sont devenus concitoyens des saints. C'est une nouvelle citoyenneté, bien meilleure que celle terrestre. Vous savez qu'il y a des classements mondiaux des meilleurs passeports, peut-être ? Donc en 2018, c'est le Japon qui a été classé premier devant Singapour et devant l'Allemagne. Donc le Japon ouvrait la porte de 189 pays sans visa ou sans demande préalable. Avec le passeport du concitoyen des saints, cela ouvre la porte du royaume de Dieu, du royaume le plus grand, le plus beau, un royaume éternel qui ne finira jamais. C'est un royaume où nous allons retrouver des personnes de toute culture, de toute race, de toute nationalité, de toute richesse, et nous serons tous sur un pied d'égalité en tant que nouvelle créature sauvée par la grâce de Christ. Personne ne peut nous enlever cette citoyenneté, elle est éternelle. Le deuxième privilège est de faire partie de la famille de Dieu, unie en tant que famille. Donc alors que nous devenons déjà concitoyens des saints, Dieu nous rapproche encore plus. Comme Jésus-Christ est fils de Dieu, en Jésus-Christ nous devenons tous enfants de Dieu. Les membres de la communauté deviennent donc nos frères et sœurs. Et Dieu devient notre Père. Quel privilège ! Paul prend l'image de la famille pour mettre en avant l'amour fraternel qui doit régner entre nouvelles créatures et entre croyants. Dans les familles, normalement, car ce n'est malheureusement pas le cas dans toutes les familles, l'on devrait vivre avec le souci de l'autre, l'entraide, la proximité, une relation beaucoup plus forte qu'avec les amis ou qu'avec nos prochains, car il y a des liens de sang. Et c'est cet amour fraternel, ces liens, que Dieu veut que nous vivions dans sa famille. Ces liens devraient être une constante de la famille de Dieu, quelles que soient les origines ou le parcours des frères et sœurs. Est-ce que nous considérons les membres de l'église locale de la Bonne Nouvelle de Mulhouse comme une famille ? Est-ce que nous considérons tous les membres de la communauté comme mon frère et comme ma sœur ? Est-ce que nous le traitons comme tel ? Est-ce que l'amour pour mes frères et sœurs dans l'église est visible lorsque quelqu'un vient de l'extérieur ? Est-ce qu'il est différent de l'amour que l'on peut trouver dans la société, qui est bien souvent un amour centré sur ses besoins personnels, sur soi, où l'on cherche plus souvent à recevoir de l'autre qu'à donner ? Alors que l'amour de Dieu est un amour qui se donne, qui se partage, qui est centré sur l'autre, qui se sacrifie pour l'autre. Qu'est-ce que je mets en place pour grandir dans la pratique de l'amour de mon prochain ? La Bonne Nouvelle de Mulhouse, par exemple, Lauriane et moi, et Samuel, avons vraiment été bénis pendant 2 ans. Donc nous en sommes très très reconnaissants. Nous avons été très bien accueillis lorsque nous sommes arrivés, nous avons été coachés, nous avons reçu des légumes régulièrement, nous avons reçu nombre de cadeaux pour Samuel, une machine à raclette par exemple, j'ai bénéficié de cours d'anglais, nous avons reçu des habits et des matériaux pour bébé, j'ai reçu des conseils, des aides pour réparer ma voiture, qui roule toujours, nous avons été invités tellement que nous avons pu honorer les invitations. Nous avons été logés dans un appartement, on nous a même fait la vaisselle un jour en notre absence. Nous avons eu de l'aide pour emménager et déménager. Nous avons eu régulièrement différentes marques d'affection, de différentes manières, et je pourrais continuer encore longtemps. Et même loin de vous, nous continuons d'être gâtés, on se sent vraiment partie, on se sent vraiment faire partie de la famille, de l'Église, de la Bonne Nouvelle. Nous avons été tellement encouragés. Un grand merci. Et pourtant, Dieu nous appelle encore à relever les défis dans l'unité des uns envers les autres, à l'exemple de Jésus-Christ et avec l'aide de son Saint-Esprit. Le troisième privilège cité, c'est le fait que l'Église soit le nouveau temple de Dieu. L'Église est une communauté de personnes, mais elle est comparée à un édifice et à un temple saint. Donc Paul compare Jésus-Christ à la pierre angulaire de l'Église. Donc la pierre angulaire est une pierre qui contribue à la solidité d'un édifice et à la stabilité de l'édifice. Donc apparemment, le temple de Jérusalem possédait des pierres angulaires longues de plus de 12 mètres. C'est pourquoi Jésus-Christ, en tant que pierre angulaire, représente le fondement et la stabilité de l'édifice de l'Église du nouveau temple saint. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève. L'union à Christ, par son esprit, est indispensable pour que les pierres vivantes que nous sommes, qui formons l'édifice, puissions être unies, bien coordonnées. La différence avec l'ancien temple est que le nouveau temple, l'Église, n'a pas de lieu géographique précis, il n'est pas fait de main d'homme, il ne représente pas une nation précise et il ne peut pas être détruit. Il représente toute la communauté des croyants de tout temps. C'est un édifice spirituel qui s'étend sur toute la terre. Dieu habite là où sont les croyants. Là où nous sommes, il se trouve en nous et au milieu de nous. Il n'est pas lié à des bâtiments sacrés, mais il est lié à un peuple. Il vit dans chaque membre individuellement avec son esprit, en tant que temple du Saint-Esprit, et dans le peuple collectivement en tant que temple de Dieu. Mais quelle est la vocation de ce nouveau temple que nous sommes? C'est le fait d'être l'habitation de Dieu, comme dans l'ancien temple, et de proclamer l'œuvre de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et notamment encore d'accueillir de nouvelles personnes dans la famille de Dieu. Pour l'instant, comme le dit le texte, l'édifice s'élève encore, avec l'accueil de nouveaux croyants chaque jour, car l'œuvre n'est pas achevée. Tant que Jésus n'est pas revenu sur terre pour le jugement dernier, eh bien le nombre de rachetés, de sauvés, de pardonnés continue d'augmenter, d'arriver dans la famille de Dieu. Quelle réjouissance de savoir qu'il y a encore de la place dans la famille de Dieu pour accueillir de nouvelles personnes. Cependant, lorsque nous regardons l'Église universelle et locale, parfois nous pouvons être attristés de ce que nous voyons, de ce que nous vivons. Cette nouvelle société que Dieu a créée, que Dieu a voulu, où Dieu est présent, cette famille, ne donne pas toujours envie. Alors que Christ a tout renversé, a détruit le mur de séparation, eh bien nous fabriquons de nouveaux murs de séparation. Nous pouvons y trouver du racisme, des préjugés, de la jalousie, des animosités, de l'orgueil, le refus de pardonner, bon, de la ségrégation raciale, de la division en petits groupes ou petits cercles, basés sur les affinités des uns et des autres, mais en excluant les autres. Des choses que nous retrouvons dans la société actuelle et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. La nouvelle société que Dieu veut, qui est représentée par l'Église universelle, avec ses hommes nouveaux, est une société magnifique, transculturelle, intergénérationnelle, de tous niveaux sociaux, de toutes races. Dans cette Église, un jeune converti, étranger, avec un look bien contemporain, doit se sentir à l'aise, accueilli, aimé, compris par les chrétiens plus anciens et plus matures. Mais encore plus, Dieu a voulu que l'Église-temple soit un témoignage vivant, une expression vivante de Dieu, une démonstration publique de l'œuvre de cette double réconciliation entre les hommes et la réconciliation avec Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui vivent dans une société différente et opposée à la société de Dieu, doivent avoir envie de connaître Dieu en nous voyant, de faire partie de sa famille, de faire partie de son peuple. Qui n'a pas envie de comprendre et de connaître qui est la motivation d'une communauté qui s'entraide, qui s'accueille chaleureusement, qui se sourit, qui se demande pardon mutuellement, qui laisse sa place à l'autre en cas de besoin, qui encourage l'autre dès que possible, qui aide matériellement ou financièrement l'autre en cas de besoin, une communauté humble tournée vers les pauvres, les exclus, les étrangers, les différents, les veuves, etc. Est-ce que je fais partie de cette communauté de gens consacrés qui donnent envie de le connaître? Et qui n'a pas envie de comprendre et de connaître qui est la personne qui est adorée authentiquement, à qui l'on fait confiance pour tout, à qui l'on remet tout, qui nous rend plein d'amour, pour les autres, qui nous rend léger, car elle a porté nos fardeaux, à qui l'on chante de tout notre cœur, à qui l'on étudie sa parole régulièrement, à qui l'on obéit intégralement ou autant que possible en tout cas. Est-ce que je fais partie de cette communauté d'adorateurs qui donne envie de le connaître? Je crois que l'église locale de la Bonne Nouvelle de Mulhouse fait vraiment plaisir à voir. Cependant, Dieu nous appelle, en tant que communauté locale, à grandir encore et toujours plus dans sa sainteté, dans l'adoration et dans la proclamation de sa personne. Attention à ne pas nous complaire ou être laxiste dans certains mauvais fonctionnements. Pour cela, nous avons besoin d'être conscients, nous avons besoin d'être devant Dieu régulièrement et de prendre conscience de nos imperfections individuelles et communautaires, de nous humilier individuellement et communautairement, de demander pardon à Dieu et à nos frères et sœurs et de tout faire pour chasser les mauvaises habitudes dans l'Église de Dieu, dans son temple saint. Et pour cela, je peux mettre des choses en place dans ma vie pour grandir et faire grandir la communauté. Par exemple, mais il y aurait plein d'exemples particuliers, la participation plus régulière à un groupe de maison, aider les costauds du mardi, prier plus régulièrement pour mes frères et sœurs, de fixer des objectifs de lecture et de méditation de la parole, individuellement ou communautairement, m'engager dans l'accueil le dimanche, m'investir dans une activité d'évangélisation de l'Église, même si je ne suis pas à l'aise pour parler. Il y aurait beaucoup d'autres exemples, mais si je ne sais pas trop, je peux toujours aller vers les responsables de l'Église pour leur demander de nous aider à discerner ensemble où Dieu nous appelle à servir. En conclusion, j'aimerais juste rappeler que nous sommes des privilégiés, nous sommes des enfants gâtés par Dieu. Dieu nous aime, nous sommes sauvés par Jésus-Christ et il nous a fait devenir concitoyens des saints, enfants de sa famille. Il habite en nous personnellement et dans notre communauté, puisque nous sommes son nouveau temple, l'habitation visible de Dieu par son esprit. Donc soyons dans la joie pour toutes ces bénédictions, essayons de briller au maximum tout autour de nous. Amen.